Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Un an déjà, un an que le virus du Covid a fait une entrée fracassante dans le monde, avec un premier mort en Chine, nos vies chamboulées et notre avenir en suspens, surtout pour les jeunes. Ce sont eux que nous allons entendre aujourd'hui dans Accent d'Europe. Des Européens plus fragiles, plus inquiets. En Italie, qui a été le foyer de la première vague de l'épidémie, les jeunes étaient déjà très malmenés par l'économie. 30% de chômage, un des taux les plus hauts de l'UE. La crise de ces derniers mois n'a rien arrangé et la part réservée aux jeunes dans le fameux plan de relance initié par Bruxelles n'a pas calmé les angoisses des principaux intéressés. Reportage en Italie, signé Olivier Bonal.
Dans ce bar quasi désert du centre de Rome, Gianluca, le gérant, revient sur une tendance marquante de ces dernières semaines. Ce ne sont pas les rares clients venus déguster un cappuccino, mais le nombre de demandes d'emploi qu'il a reçues. En un mois, elles ont explosé, de la part des jeunes en particulier, signe de la crise économique profonde en Italie.
Entre les demandes sur Internet et les CV que l'on m'a déposés au bar, j'ai reçu en un mois 220 candidatures. D'habitude, les années précédentes, j'en recevais une vingtaine. On a pu embaucher deux jeunes qui en avaient vraiment besoin, mais avec les fermetures et les incertitudes, je ne peux pas leur garantir de venir travailler.
Chez Gianluca, comme dans tant d'autres endroits dans le pays, les jeunes Italiens tirent la langue. L'épidémie de Covid pèse lourdement sur leurs conditions de vie. Au mois d'août dernier, le chômage des 15-29 ans a grimpé à 17,6% dans l'espace européen. Il dépasse désormais les 32% dans la péninsule. Corinna a 21 ans. Depuis des mois, cette Napolitaine est bloquée chez elle, au chômage. Elle travaillait dans un magasin de cosmétiques avant que la pandémie ne vienne tout chambouler.
En septembre 2019, j'ai obtenu un contrat de stage dans un magasin pour 6 mois. Et comme j'ai bien travaillé, on m'a proposé un contrat de travail dans un nouveau point de vente. Et puis en mars dernier, la pandémie et le confinement sont arrivés. Je n'ai plus de nouvelles ni du magasin ni de la société. Et puis 6 mois plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone où l'on m'a dit qu'il n'était pas possible de m'embaucher car il n'y avait plus d'argent pour me payer.
Depuis des mois, Corinna répond à des annonces en ligne, envoie des CV, en vain, une situation qui pèse sur son moral.
Je ne cache pas que c'est très frustrant. Je me sens, je ne dirais pas inutile, mais presque. J'ai l'impression d'être une bonne à rien, comme si tout était de ma faute, alors que ce n'est pas le cas.
Depuis 2012, l'Institut Giuseppe Toniolo de Milan abrite un observatoire de la jeunesse italienne. Chaque année, il publie un rapport, véritable baromètre du bien-être des jeunes dans la péninsule. Alessandro Rosina est professeur de démographie et de statistique. Coordinateur du dernier rapport, il met en avant l'impact de la pandémie de Covid sur les jeunes et le marché du travail, des chiffres particulièrement inquiétants.
Selon les chiffres de notre rapport, près de 57% des jeunes qui, début 2020, cherchaient un travail, ont suspendu leur recherche ou l'ont remise à plus tard, parce que les débouchés se sont fortement réduits. La crise a donc été perçue de façon aiguë par les jeunes.
Plus que la sécurité d'un emploi, la pandémie a aussi porté un coup dur aux ambitions de nombreux jeunes Italiens, désormais plus inquiets pour leur avenir. Alessandro Rosina.
40% des jeunes que nous avons interrogés ont peur que la pandémie affecte directement leur cursus d'études et leur début de carrière. Et près de 60% d'entre eux se disent persuadés qu'elle aura des conséquences négatives sur leur projet de vie, sur leur autonomie par rapport à leur famille, sur leur projet d'avoir des enfants. Ce sont les pires chiffres que l'on puisse trouver en Europe.
La pandémie de Covid accentue les fragilités déjà existantes qui touchent de nombreux jeunes Italiens. Ces 10 dernières années, 250 000 d'entre eux ont déjà quitté le pays à la recherche d'un meilleur avenir à l'étranger. Mais le gouvernement italien compte bien sur la manne du plan de relance européen pour remettre les jeunes au cœur des politiques publiques. Avec près de 200 milliards d'euros, l'Italie est le premier bénéficiaire de ce plan au niveau européen. Sauf que selon les premières projections du gouvernement, moins de 3 milliards sont prévus pour aider la jeunesse, soit à peine plus d'1%.
Noi diciamo che non è abbastanza e chiediamo il 10% per formazione, orientamento e lavoro.
Un chiffre très insuffisant pour de nombreux jeunes qui ont lancé une pétition sur les réseaux sociaux. Ils appellent le gouvernement à de vrais efforts financiers pour soutenir la nouvelle génération. Son nom est Uno non basta, 1% ne suffit pas. L'un de leurs slogans, nous sommes l'avenir, mais nous n'avons pas d'argent. Flavio, 27 ans, est l'un des initiateurs de cette pétition.
1%, c'est absurde si on considère que les jeunes sont le présent et l'avenir du pays. Ils ne peuvent pas être considérés comme 1% de cet avenir. C'est de cette simple prise de conscience qu'est née l'idée de passer de 1% à 10%.
Ce collectif propose des pistes concrètes, stages rémunérés, déductions fiscales à l'embauche ou primes d'apprentissage, et surtout des bourses d'études ou de travail pour réinsérer les 350 000 jeunes Italiens qui ont décroché, autant de pistes sur lesquelles l'Italie est en retard. Même si le découragement a gagné de nombreux jeunes Italiens, la volonté d'aller de l'avant est bien là, comme le résume la Napolitaine Corina.
Moi, je veux continuer à être positive et optimiste. Si on a bien survécu aux famines et aux guerres, on survivra à la pandémie. La seule chose qui m'importe, c'est que tant de jeunes comme moi puissent avoir un meilleur avenir. C'est notre tour à présent, notre tour d'avoir un avenir heureux et stable pour nous et nos enfants.
L'Italie investira-t-elle suffisamment pour sa jeunesse? Les prochaines semaines seront décisives. C'est à la mi-février que Giuseppe Conte doit transmettre à Bruxelles son plan de dépenses des fonds européens.
Et pour ne pas pénaliser l'économie, le président turc a voulu épargner la population active en ne confinant que les personnes âgées et les plus jeunes, les moins de 20 ans, sont donc cloîtrés chez eux depuis de longs mois avec une courte parenthèse estivale, une politique dont les effets sur le mental s'avèrent déjà inquiétants à Istanbul, à Nandlaoer.
Pour enrayer l'épidémie de Covid, la Turquie a choisi dès le début une méthode de confinement aussi inédite que problématique. Ne pas confiner sa population active, définie comme les Turcs de 20 à 65 ans, mais imposer un confinement strict et sur de longues périodes aux plus âgés et aux plus jeunes. Les premiers, car on sait qu'ils sont plus à risque de contracter la maladie et d'en mourir. Les seconds, car ils sont plus souvent asymptomatiques que les autres, donc susceptibles d'être contagieux sans même se savoir infectés. Résultat, entre le 21 mars et le 1er juin 2020, lors de la première vague, 25 millions de Turcs âgés de moins de 20 ans n'ont pas mis une seule fois le pied dehors. Plus de 2 mois à la maison, à suivre les cours sur ordinateur pour ceux qui sont scolarisés, et à courir entre 4 murs pour les petits. Après le répit du déconfinement pendant l'été, la reprise de l'épidémie à l'automne a poussé le gouvernement à appliquer les mêmes méthodes, renvoyer chez eux les plus âgés et les plus jeunes. Depuis le 20 novembre, les Turcs de moins de 20 ans ne peuvent donc sortir que 3 heures par jour entre 13h et 16h. Sur les réseaux sociaux, les jeunes crient leur ennui et leurs parents leur désespoir. Plus sérieusement, les médecins et les psychologues s'inquiètent pour cette génération qui, depuis près d'un an, a les yeux rivés sur l'écran encore plus souvent que d'habitude, fait beaucoup moins d'exercices physiques, ne voit presque plus ses amis, est anxieuse pour son avenir avec la hausse du chômage des jeunes et ne sait pas quand elle pourra retrouver sa liberté. Les autorités turques ne semblent en effet pas pressées de lever ce confinement des plus âgés et des plus jeunes, qu'elle juge efficace tout en étant relativement peu coûteux pour l'économie.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul.
La vie étudiante, une expression qui nous renvoie au monde d'avant et qui est aujourd'hui vidée de presque tout son contenu. Plus de fêtes, plus de petits boulots, plus de rencontres dehors ou sur les bancs de la faculté, mais des cours à distance et des examens dont l'organisation dérape gravement. En ce début janvier, seuls quelques étudiants de première année, triés sur le volet, ont pu reprendre le chemin des cours par groupe de 10. Résultat, le moral des jeunes est au plus bas et le décrochage menace. Selon une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, un étudiant sur 3 présente des signes de détresse psychologique. Léa Lisa Vesterov s'est rendue à une distribution de petits déjeuners gratuits organisée par l'Université de la Sorbonne au cœur de Paris.
Ouais. Petite compote.
Les mains plongées dans des sacs en papier craft, Joséphine et son collègue répartissent les petits déjeuners du jour. Au menu, jus d'ananas, lait, céréales, confiture, miel et pommes, tout ce qu'il faut pour bien démarrer la journée. Cette distribution gratuite, organisée par le CROUS, a démarré en décembre pour rompre l'isolement, comme l'explique Joséphine Messien en deuxième année de lettres et médias, payée pour ce job d'étudiant d'un nouveau genre.
C'est l'occasion pour nous de garder un petit lien, d'échanger avec eux et qu'ils voient qu'ils peuvent quand même compter sur nous
même pour un petit déjeuner, je pense que ça leur fait du bien aussi. Du coup, là, même moi, avoir ce travail, je suis très contente parce qu'on rencontre les gens et je demande souvent s'ils vont bien et tout.
À deux pas de la Sorbonne quasi déserte, le petit local mis à disposition par la mairie de Paris offre un espace d'échange, même bref, avec les étudiants. L'occasion aussi de leur parler de leur santé, des offres de psychologues, de massages.
Réflexologie plantaire.
Des massages.
Car Joséphine, un pull à capuche avec l'inscription étudiant relais santé sur le dos, cheveux longs et bouclés, ses yeux ourlés d'un eyeliner jaune lumineux, confirme, elle a beau être combative, le plus dur, c'est de ne pas savoir quand la vie étudiante va pouvoir reprendre son cours.
Le premier confinement, on pensait qu'il y avait une fin. Alors que là, au début de l'année, on s'est dit, bon voilà, il y a un semestre à passer, le semestre 1, semestre 2, on sera de retour à la fac. Et non, toujours pas. Pour beaucoup, et dans mon cas, on a besoin de stimulation. Voilà, d'être stimulé par nos camarades et par nos professeurs. Et du coup, bah, c'est totalement gâché.
Et en ce matin glacé de janvier, ce qui revient systématiquement à la bouche des étudiants, c'est la lassitude immense par rapport aux cours à distance, synonyme de stress, renforcé encore avec l'arrivée des partiels. C'est aussi ce que décrit cette étudiante en master de droit à SAS, qui ne préfère pas indiquer son prénom.
Moi, j'ai été confrontée à des très fortes angoisses là pendant les examens de mi-semestre. J'ai fait plusieurs malaises parce que j'étais extrêmement fatiguée et ça faisait 10 ans que j'avais pas vécu ça. Et je trouve que certains professeurs n'ont pas tenu compte du côté humain en fait. Et on est inquiet pour notre avenir et par rapport aux résultats qu'on va avoir parce qu'on va pas du tout être avantagé, mais bien au contraire désavantagé.
Pour beaucoup, le décrochage semble inévitable. Dans certaines facs, le taux de connexion aux cours à distance est passé de 70 à 30%. Anne Priscille, en deuxième année de médecine, confirme cette situation exceptionnelle, sans prof ou étudiant à qui parler, a beaucoup trop duré.
C'est assez dur de suivre les cours à distance, en fait. Surtout que c'est pas vraiment un cadre que j'ai pour travailler, donc ça, c'est assez compliqué. Et surtout, de pas avoir des périodes de décompression. Par exemple, on avait le temps de voir nos amis avant d'aller en soirée, maintenant c'est plus trop le cas. Donc c'est vrai que c'est compliqué.
À un moment où elle devrait être au centre de tout, la vie sociale des étudiants est comme anéantie. Maxime Lacoche, qui coordonne les actions de prévention et de promotion de la santé à la Sorbonne, l'a constaté ces derniers mois.
C'est des années charnières, surtout pour ceux qui viennent de passer leur bac et qui sont dans les premières années de leurs études. Il y a eu à un moment donné des rencontres en amphi, mais assez vite, ils ont dû être chez eux à télétravailler pour pouvoir suivre leurs études. Beaucoup de stress, du flou, du manque de visibilité sur la réouverture des campus. Et une frustration ressentie, pas de fête étudiante, pas de rencontre, pas de relation amoureuse.
Et quand on demande aux étudiants ce qui leur manque le plus, la réponse ressemble beaucoup à celle de Laetitia, 24 ans, étudiante en deuxième année de médecine.
Les bars, aller boire des verres, par exemple après les partiels, je voulais boire un verre, je fais non. Sortir après les cours, voilà, pour faire un peu autre chose, surtout comme ici on a beaucoup de boulot pour décompresser, ça aurait été bien, mais bon.
Ça, c'est le document qui récapitule les aides disponibles.
Mais l'isolement des étudiants ne se limite pas à l'absence de relations sociales. Pour les jeunes les plus précaires, les confinements successifs les ont privés de leur seule source de revenus. Alors qu'un jeune sur deux travaille pour financer sa formation, sur le marché, il n'y a plus ou si peu de jobs étudiants. Une précarité vécue encore plus fortement par les étrangers, comme Sarah, étudiante algérienne en Master 1 Management à Descartes.
Le coût de vie, j'avoue que ici en France, c'est tellement cher. Pendant cette semaine, je fais que chercher, même pour le stage. Pour l'instant, il n'y a rien.
Son amie Fatima, en licence 3 d'économie, a du mal à joindre les deux bouts. De petit-déj en distribution alimentaire, épuisée par les cours à distance. Elle songe même à repartir en Algérie.
Surtout psychologiquement, je sens que je n'arrête pas de pleurer. Et tout. Difficulté, je dois trouver un travail, ce que j'arrive pas à trouver. J'ai postulé partout, mais je n'ai pas eu de réponse.
Le gouvernement a fait des annonces récemment. Les aides d'urgence versées par les CROUS ont été doublées. 20 000 emplois étudiants ont été créés. Mais les incidents et les plaintes des étudiants se sont multipliés la semaine dernière lors des examens dans plusieurs facs. Et un appel à la grève de tous les étudiants a été lancé pour le 26 janvier.
Et en Grèce, les jeunes sont devenus un enjeu politique dans la lutte contre le coronavirus. Selon le gouvernement, leur attitude insouciante serait à l'origine de la seconde vague de l'épidémie. Une accusation très difficile à entendre pour une génération qui se sent sacrifiée à plus d'un titre. À Athènes, Joël Brouanard.
Le comportement des jeunes
voilà le principal responsable officiellement désigné pour expliquer la propagation de la deuxième vague du coronavirus en Grèce. Le 12 novembre dernier, face au Parlement grec, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis doit justifier une décision largement impopulaire, la mise en place 5 jours plus tôt d'un reconfinement de l'ensemble du pays. Face à une assemblée clairsemée de députés masqués, le dirigeant conservateur pointe le comportement malhonnête et irresponsable de certains vis-à-vis de la distanciation sociale. La cause principale de la propagation du virus en Grèce et à travers l'Europe a été le divertissement des jeunes, affirme-t-il ensuite. En parallèle, le Premier ministre s'emploie à minimiser, voire balayer les autres causes de la seconde vague, de l'ouverture du pays au tourisme durant l'été, au transport en commun bondé, en passant par certains gros rassemblements religieux. Il est toujours plus simple de faire de quelqu'un un bouc émissaire, mais ce n'est pas le moment de blâmer qui que ce soit pour la crise, car nous sommes tous touchés à différents égards, a réagi Karina Hautengruber, présidente du Forum européen de la jeunesse, lors d'un entretien au réseau de médias européens Euractiv. Selon les chiffres officiels, les 18-39 ans représentent 35% des cas de Covid détectés en Grèce depuis le début de la pandémie. Mais les 40-64 ans, plus de 40% des cas, sont majoritaires. Fin octobre, peu avant le discours du Premier ministre, les chiffres quotidiens indiquaient en revanche une augmentation des cas détectés chez les 18-39 ans. Mais en l'absence de politique de dépistage d'envergure, ces chiffres sont largement sujets à caution, ce que n'ignore pas le Premier ministre grec, qui s'est bien gardé de citer des statistiques à l'interprétation contestable. La justice grecque semble en tout cas avoir entendu le message de la responsabilité particulière des jeunes. 2 jours après ce discours à l'Assemblée, elle condamne 2 étudiants Erasmus de Thessalonique, une Française de 21 ans et un Palestinien de 24 ans, à une amende de 3 200 € et à plus de 2 ans de prison avec sursis. Le crime de ces jeunes, l'organisation d'une fête d'une 20aine de personnes au cours du confinement.
May I have your attention, please? Music,
I like music. You like music?
Music make you lose control.
Why don't you put a record on?
Et comme toutes les semaines, on part en voyage en musique avec vous, Vincent Théval. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous nous faites découvrir aujourd'hui la face cachée du Luxembourg avec Dick Annegarn.
Je vous propose aujourd'hui d'arpenter les rues de Luxembourg en compagnie du chanteur néerlandais Dick Annegarn. Des rues où tout s'accorde, où tout concorde, où tout s'adapte et tout convient. C'est le portrait d'un grand faubourg au matin blême, où règnent les banques et le silence dans un monde tertiaire fait de sol et de costumes lisses. Luxembourg est une ville riche où viennent échouer les pauvres, estime Dick Annegarn, qui évoque dans cette chanson les transfrontaliers qui font le ménage dans les bureaux avant que n'y arrivent les salariés de la finance. Un texte politique et poétique.
Les gouttes glissent sur le verre lisse des vitres tristes du Luxembourg. Les trains se traînent au matin blême dans le tunnel de Bettembourg. Tout s'accorde, tout concorde, tout s'adapte, tout convient. Les gardes gardent les portes lourdes du grand duché, du grand faubourg. Les gens se suivent au quotidien, les banques s'esquivent, mènent grand train. Les portes claquent de plates matraques, personne ne sort d'ici vivant. Les yeux se braquent à chaque ressac du grand navire virevoltant.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. À demain.
Tout convient, sauf que vivre ne rend pas ivre, ni sain ni rien, tout juste vivant. Les gens se suivent au quotidien, les banques s'esquivent, mais...